Bonjour à toutes et à tous. On est très content avec Dominique de vous voir ici, de pouvoir vous exposer pendant toute la journée cette rénovation des BTS de la mécanique. Je vous précise tout de suite que l'ensemble de la séance est filmé. Donc, on est sous surveillance. Donc, ce sera disponible si vous voulez revisiter les interventions. Que toutes les présentations sont dans une Dropbox qui sera mise à disposition de Philippe Jung dès ce soir et que donc vous pourrez retrouver toutes les présentations, y compris les référentiels en format PDF avec des inscriptions dessus projet parce qu'ils ne sont pas encore passés devant le CSE. Donc tout sera disponible dès demain. Si tout va bien. Quelques point d'organisation sur cette journée. On va commencer avec Dominique par essayer de vous faire sur les aspects, on va dire, pourquoi on a fait cette rénovation, rentrer un peu dans la politique que l'on a voulu mener avec la branche professionnelle et le positionnement des différents BTS entre eux, et en insistant évidemment sur les points caractéristiques du changement. Comme ces points caractéristiques du changement sont assez pointus, on a demandé à Michel Berceau, qui ne devrait pas tarder d'arriver, j'espère, de vous faire un focus sur les procédés additifs de réalisation de pièces, et à Gilles Desmarets, qui est chef de travaux au lycée Godefroy de Bouillon à Clermont-Ferrand, de vous faire un petit aperçu sur l'utilisation du PLM. Voilà, ce sont deux points caractéristiques. Ce matin, on vous fera une présentation aussi, c'est Jean-Louis Terzi et Jean-Pierre Collignon qui le feront sur le BTS Europlastic, la deuxième option de ce BTS-là, celle qui est créée. Alors pourquoi? Parce que ça n'a jamais été présenté encore, qu'il y en a quand même beaucoup. Si on a le temps, je dis bien si on a le temps dans la journée, on vous fera une présentation de fonderie et forge aussi, extrêmement rapidement. Mais comme tous les lycées étaient représentés dans la construction du RAP en fonderie et en forge, évidemment, il n'y en a qu'un, donc ça ne pose pas de problème. La connaissance par les enseignants de ces deux RAP, évidemment, ces deux référentiels, elle est connue. Alors pourquoi? Parce qu'on veut garder un peu de place cet après-midi pour finir de vous présenter évidemment ces référentiels et surtout aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la présentation d'éléments de sujet zéro, pour bien caractériser les épreuves que vous aurez à mettre en œuvre dans 2 ans. Voilà, si vous voulez, le programme de la journée. Tu commences, Dominique?
Alors d'abord un petit bilan pour essayer de justifier tous les points qui nous ont amenés à proposer cette rénovation. Donc là, vous avez un petit bilan quantitatif, pardon, hein, des évolutions des effectifs. Et on s'est rendu compte il y a quelques années que on avait dans les métiers de la mécanique, on avait deux blocs. Hein. On avait un bloc de BTS qui se maintenait en termes d'effectifs, qui résistait, qui voire même augmentait. Et puis, on avait un autre bloc de BTS, de métiers, qui diminuait, certains d'une manière assez inquiétante. Donc, c'est ça qui nous a poussé à réfléchir. Et quand on a analysé ces résultats, on s'est rendu compte que partout où on essayait d'associer et à privilégier l'aspect conception des choses, hein, que ce soit de la conception de produits, que ce soit de la conception de processus, de process, eh bien, on améliorait les résultats en termes d'effectifs par rapport à des métiers qui pouvaient être, à des formations qui pouvaient être perçues comme étant très métier, métier, métier. Voilà, donc ça, c'est une des premières raisons. Donc là, on a alors une petite précision quand même qui vaut le coup parce que on a déjà fait cet exposé et j'ai compris qu'il pouvait y avoir une ambiguïté. Donc la rénovation qu'on vous propose touche les BTS, CPI, IPM, Aéro, Forge, Fonderie et Plasturgie, hein, les autres n'étant pas rénovés, c'est-à-dire que c'est pas parce que ce tableau-là apparaît que le BTS, CRSA ou le CIM ou le CRCI sont rénovés. Hein. Donc la rénovation commence à partir du CPI et descend jusqu'en bas.
Alors, sur les objectifs généraux pour les étudiants. Donc il s'agit bien de les amener à une intégration progressive d'une culture professionnelle. Alors je dis progressive parce que selon leur origine, si ce sont des bac pro, cette culture professionnelle, ils l'ont, ils n'ont même, je dirais, que ça. Et si ce sont d'origine bac STI 2D, cette culture professionnelle, ils ne l'ont pas. Ils ont la culture du projet, une culture technologique, mais pas professionnelle. La culture de l'entreprise aussi, suivant leur origine, toujours pareil. Les aspects de communication qui sont très fortes et très demandés par les industriels, et ceci quel que soit le bac. Pour vous, c'est un peu différent. Il y a dans les contenus de ces référentiels des évolutions technologiques majeures qu'il faut savoir appréhender. Il y a déjà eu des actions de formation par le CERPEP montées, notamment sur tout ce qui est procédé additif, mais il va falloir accélérer certaines formations. Donc, évidemment, les transformations du numérique, mais ça, vous y êtes déjà donc depuis longtemps. Travailler en équipe, vous allez voir que ça devient extrêmement prégnant. Et surtout de développer le travail collaboratif, c'est une demande forte des industriels, ça veut dire qu'il faut traduire dans nos méthodes d'enseignement, dans notre façon d'enseigner, le travail collaboratif. Les incidences sur les établissements, il va y en avoir aussi. Vous verrez qu'au travers des référentiels, il ne va plus être possible ou guère possible de continuer à faire perdurer des BTS sans relation forte avec le tissu industriel local. Donc, on recherche aussi une adaptation et une relation entre le BTS auquel on forme et le tissu industriel. Et évidemment, il va falloir adapter les moyens techniques aussi au contexte local, parce que ce que l'on a voulu, c'est vraiment ouvrir le contenu de ces référentiels et ne pas imposer certaines technologies. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir adapter les technologies techniques de réalisation au contexte local, donc aux industries locales. Et enfin, le troisième objectif pour les rectorats et les régions cette fois-ci, ça va être certainement de retravailler un peu la carte des formations, même si on peut la travailler de différentes façons. Ça ne veut pas dire des fermetures, hein, c'est pas ce qu'on veut dire, mais il faut la retravailler. Il faut repenser complètement l'offre en établissement et l'attribution des dotations horaires. Vous allez voir qu'on a essayé de mettre en place, on va dire, des référentiels qui sont composables. On a écrit des savoirs de manière unique entre CPI, IPM, Fonderie, Forge, complémentaires évidemment, c'est-à-dire qu'il y a une partie de savoir unique, il y a une partie des compétences qu'on retrouve dans tous les référentiels. Bref, il est extrêmement simple aujourd'hui, enfin aujourd'hui, demain, pardon, de pouvoir faire coexister un groupe d'anciens IPM, on va voir comment ils s'appellent maintenant, et d'anciens CPI sans que ça coûte plus cher. Et au contraire, ça sera même presque une obligation si on veut faire du travail collaboratif. Du vrai travail collaboratif entre groupes de BTS. Donc ça change un petit peu complètement les données. C'est plus le projet de l'établissement, le projet pédagogique de l'établissement qui va compter qu'une dotation horaire faite à la classe. Alors, gérer les outils de conception collaborative, parce qu'il faudra le faire, il faudra prendre le temps qu'il faut. Mais je crois qu'il faut aller vers la gestion de ces outils collaboratifs, y compris aussi vers une gestion de plateaux techniques que personnellement je vois complètement différemment d'avant. Je crois qu'on est arrivé à un point de rupture dans l'évolution des plateaux techniques d'établissement. Et que le degré de technicité des éléments qu'on va mettre en place, le coût de ces éléments-là de production, font qu'on, à mon avis, hein, on devrait se diriger plus vers une gestion régionale de plateformes technologiques et ne pas tout trouver dans les établissements. Ça ne sera plus possible, économiquement parlant. Donc voilà les enjeux, les objectifs qu'il y a derrière cette réforme.
Alors, pour trouver de la cohérence à cette réforme, on a réfléchi encore en amont du domaine de la mécanique Et on a identifié un certain nombre de familles hein, que vous voyez apparaître là, hein, des familles des métiers du pilotage et de la maintenance, de la conception des produits, de la conception des process et tout ce qui est formulation laboratoire. Et on sent bien que ces différentes familles ont des espaces de recouvrement, qu'ils ont des espaces d'autonomie. Et ça nous permet d'essayer d'avoir une cohérence globale dans ce qu'on attend dans chacun de ces métiers pour chacune de ces familles. Donc là, on va travailler essentiellement sur les métiers de la conception des produits et sur les métiers de la conception des process. Tout ça pour vous dire que on est bien dans la conception. On est bien dans la conception des produits. Ça change pas. Hein, pour l'ancien BTS CPI, ils étaient déjà dans la conception des produits. Par contre, là, ce qui est nouveau, c'est que pour les BTS métiers de la réalisation, eh bien, on privilégie les métiers de la conception des process par rapport au métier de la réalisation de pièces. Les métiers de la réalisation de pièces, quand on est devant la machine pour tomber une pièce, c'est bien le rôle du bac pro. Et bien sûr, le BTS doit savoir le faire, mais ce n'est pas son métier.
Alors, on essayait de positionner par rapport aux anciens les nouveaux BTS pour que vous ayez un aperçu d'ensemble. Ce qui nous a un peu guidé dans la conception, c'est le BTS CRCI. C'est-à-dire qu'on a essayé de prendre appui ou modèle, si on veut, sur ce BTS-là, parce qu'il va de la conception à la réalisation. Et ce qui nous intéressait, c'est de couvrir l'ensemble et de se rapprocher un peu de ce modèle qui, en termes de flux d'élèves, a l'air de très bien marcher. Donc voilà le positionnement, si vous voulez, actuel de ce que l'on a, avec une particularité sur le BTS Aero où on a de la conception multi-outillage. C'est un peu cet aspect-là. On a travaillé à partir de ça. Et on a dit cette conception multi-outillage ne paraît pas très, très simple à faire. Donc à la fois de concevoir et de réaliser tout type d'outillage. Et quand on regarde les faits, effectivement, à 95%, en fait, on fait de la conception, de la réalisation d'outillage de plasturgie. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe en France. Donc, on a convenu, parce que ça fait 5 ans qu'on a commencé sur le fond de cette rénovation, 5 ans qu'on a commencé les discussions avec l'UMM pour avoir, on va dire, un fil conducteur de rénovation. Donc, on s'est dit, et ça a été acté dans la CPC il y a 2 ans et demi à peu près, qu'on allait remettre la conception des outillages dans tous les BTS de procédés. Donc on a imaginé un BTS aéroplastique qui vous sera présenté tout à l'heure à deux options, puisque la profession tenait à garder cette première option, c'est celle qui existe tout de suite. Et donc on a réintégré de la conception d'outillage de plasturgie dans le BTS aéroplastique dans la deuxième option. Nous, du coup, on a créé un BTS qui s'appelle le CPRP, donc conception des processus de réalisation de produits. Tous les termes sont pesés. Où on a évidemment de la conception, mais là c'est de la conception des porte-pièces qui servent à la réalisation. Et on a fait deux options. Une option petite série renouvelable et une option pièce à forte valeur ajoutée, pièce unitaire. J'ai pas dit outillage. Ça comprend toutes les pièces à forte valeur ajoutée, y compris l'outillage, mais pas que l'outillage. Donc on a ouvert à tout ce qui est aérospatial aussi et aux matériaux un peu particuliers. Et puis en faisant ça, bah, il nous manquait un procédé, qui est le procédé de tout ce qui est découpe-emboutissage. Donc les travaux ont commencé il y a 3 semaines à peu près, puisque Dominique commence et puis je finirai ce BTS en cours d'année. Donc ils ont commencé par aller voir dans l'entreprise les besoins et essayer donc de définir le RAP. Donc normalement, avec la méthodologie qu'on déroule, j'espère que d'ici à la rentrée 2017, on va dire, ce BTS soit disponible. Sachant que tout le reste, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, est à mettre en œuvre à la rentrée 2016. Ce qui change, c'est qu'on introduit cette part de travail collaboratif, c'est-à-dire qu'on essaye de, en ces pays d'aller plus loin que la pré-industrialisation qui était faite et de commencer bien en amont dans les BTS de procédés, c'est-à-dire qu'on fait de l'ingénierie système et on fait donc de l'ingénierie collaborative. Alors elle se passe là. Évidemment, ce qu'on produit, c'est toujours la même chose, mais série. Pour ce qui est première option, on est vraiment sur des séries de pièces, puisque c'est là où on pilote les machines, donc il faut que ça produise. Sinon, tout le reste, on est dans une visée pré-série, voire unitaire. On a souhaité que le BTS CPI étende, on va dire, les compétences vers la réalisation de tout ou partie d'un prototype physique. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'un aspect virtuel des choses et numérique. Donc, on attend du BTS CPI en projet notamment, la réalisation d'un prototype de solution. Évidemment, la partie collaborative se fera aussi sur la conception des outillages. Donc on veut une collaboration complète. Donc voilà, si vous voulez, ici, vous avez le domaine de la conception de produits. Ici, le domaine de la conception de process. Et vous avez au milieu, l'ancien BTS Aeroplastic qui fait plus partie du domaine du pilotage des systèmes mais qui n'est pas dans ces deux-là. Donc il faut bien avoir ça en tête lorsque vous recomposerez votre offre de formation en fonction des nouveaux BTS. Je ne vous cache pas que ce qui nous intéresse, c'est cette deuxième option du BTS Aeroplastic, c'est celle qui permet de faire de la conception, donc celle qui permet de faire du travail collaboratif. Je pense qu'on est plus outillé pour faire cette option dans nos établissements, dans nos lycées, que la première. Je te laisse les points clés, Dominique, si tu veux.
Donc, un certain nombre de points clés, hein, pour résumer ce que vient de dire Michel. Donc, la création d'un nouveau BTS, hein, le BTS découpé en boutissage, dont il a parlé. Ensuite, l'introduction des procédés additifs et de production, de réalisation de produits. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est fondamental. Tout à l'heure, Michel Berceau vous montrera que ces procédés additifs qu'on peut encore percevoir comme étant extrêmement prototypes, de type prototype expérimentaux, etc., eh bien, ça a un développement absolument exponentiel et que si ça continue comme ça, dans 10 ans, ce sera vraiment des procédés industriels. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il va falloir intégrer. La troisième chose, Michel l'a dit, c'est la réalisation des prototypes pour le BTS CPI, pour qu'on puisse aller un peu plus loin que la maquette numérique. Et puis, donc, l'introduction des outils de conception collaborative, il en a parlé aussi. Et donc, les enseignements autour de démarches de projet. Donc, ce qui nous avons vraiment tout fait pour que la formation soit rythmée par des démarches de projet qui permettent aux élèves d'être en situation concrète, active et de partage collaboratif. Alors, l'organisation des formations maintenant globalement. Parce que là, on vous a parlé que d'un certain nombre de choses concernant l'aspect technique, mais il n'y a pas que ça. Donc, on a travaillé également sur la recherche d'un équilibre entre enseignement général et enseignement professionnel. Donc, pour ça, on a travaillé avec nos collègues de mathématiques et on vous fera une proposition tout à l'heure de co-enseignement en mathématiques. Et puis, on a retravaillé avec nos collègues d'anglais, de manière à poursuivre ce qui se faisait au niveau du bac STI, ce qui est en train de se faire dans de nombreux bacs pro, c'est-à-dire des co-enseignements entre anglais et enseignement professionnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un renforcement des stages en entreprise. Hein, je vais rentrer dans le détail tout à l'heure, mais on vous propose, lorsque c'est possible, et on vous donnera tout à l'heure les conditions à réunir pour que ce soit possible, eh bien, de prévoir un stage de découverte qui s'adressera en particulier aux élèves venant de STI 2D et qui n'ont pas cette culture de cette culture professionnelle que peuvent avoir leurs collègues venant de Bac Pro. Le troisième point, c'est donc de développer l'aspect collaboratif, les différentes possibilités de travail collaboratif et de le développer d'une manière concrète. Alors, grosso modo, on a un enseignement pour tous ces BTS qui se répartit de la manière suivante, hein, et c'est valable pour les 5 BTS dont on parle. Donc 8 h 30 d'enseignement de culture générale avec donc culture générale expression français, hein, langue vivante étrangère anglais. Donc là, c'est anglais, hein, c'est langue vivante étrangère anglais, c'est pas langue vivante avec le choix entre différentes langues vivantes. Mathématiques et physique chimie. Tout à l'heure aussi, on reviendra sur la physique chimie parce que on a discuté là aussi avec nos collègues de physique et chimie et on leur a demandé explicitement de faire un programme de physique et chimie généraliste, hein, dont l'objectif principal est de permettre des poursuites d'études, de viser et de faciliter les poursuites d'études. Sachant que s'il y a des besoins de physique et chimie dans l'enseignement professionnel, ben à ce moment-là, ça peut s'intégrer dans l'enseignement professionnel. Donc un bloc d'enseignement professionnel avec donc 20 heures d'enseignement professionnel, c'est donc un bloc important, on ne perd pas beaucoup. Il y a eu un réajustement horaire entre les 5 BTS dont on parle, hein, c'est-à-dire que certains BTS ont perdu un petit peu de leur horaire traditionnel parce que là, il a fallu renégocier sur un certain nombre de BTS cet horaire global. Et puis donc une volonté de personnalisation, hein, avec de l'accompagnement personnalisé, hein, qu'on met en place également. Et un stage de découverte, le stage de découverte dont je vous parlais à l'instant. Alors, les stages en entreprise. Donc, en fait, tout à l'heure, Michel le disait, notre volonté, c'est un choix discutable, mais on ne l'a jamais fait, donc on ne peut pas dire que ça ne marchera pas. C'est de libéraliser au maximum les possibilités de stage. Hein, c'est-à-dire qu'on a un carcan qui est, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, c'est une durée de stage de 6 à 10 semaines. Ensuite, on a un autre carcan qui n'est pas écrit, mais que vous connaissez tous, hein, qui est qu'aujourd'hui, au-dessus de, je ne me souviens plus combien de semaines, les entreprises sont obligées de rémunérer leurs stagiaires. Et donc, c'est une forte, enfin, c'est une forte contrainte à respecter. Donc, mais en dehors de ces deux contraintes-là, eh bien, nous proposons donc aux établissements de choisir eux-mêmes les périodes de stage qu'ils organiseront. C'est-à-dire que nous n'avons pas dans les textes prévus explicitement, formellement, les périodes calendaires dans lesquelles il faudra organiser les stages. Chaque établissement pourra organiser les stages comme il le souhaite. Et dans la durée qu'il le souhaite, vous voyez, on a mis une durée de 6 à 10 semaines suffisamment large pour pouvoir soit faire le minimum 6 semaines, soit aller jusqu'à 10 semaines si l'établissement veut s'organiser de cette manière-là. Alors, le stage de découverte, il est de 1 à 2 semaines. Là encore, l'établissement choisit de le faire comme il veut. Et il se fait obligatoirement dans le premier semestre de la première année, parce que sinon, après, ça ne sert plus à rien. Et par contre, le stage industriel se fait n'importe quand. Le stage de découverte n'est pas évalué. Je ne sais pas si j'ai une diapo où on y revient après. Non, aussi? Oui, non, peut-être pas. Donc je vais quand même vous expliquer le concept qu'on a mis en place pour déclencher la possibilité donc de proposer ce stage de découverte. Il faut simplement qu'il y ait un projet pédagogique qui soit validé par le chef d'établissement. Et que ce projet pédagogique permette aux élèves de STI 2D effectivement de suivre un stage de découverte d'une ou de 2 semaines, ça bien sûr, mais qu'il oblige les élèves qui sont issus de baccalauréat professionnel d'être accueillis au lycée et d'avoir des cours. C'est le moment ou jamais dont on peut profiter pour que ces étudiants puissent bénéficier d'enseignements complémentaires, hein, qu'ils n'auraient pas eu donc, par rapport à leur cursus de bac professionnel. Donc, seulement si cette condition est remplie, à ce moment-là, on peut imaginer que qu'une partie des étudiants fassent le stage de découverte. Le stage de découverte n'est pas noté, n'est pas évalué et ne donne pas lieu, disons formellement, au niveau de l'évaluation, il ne donne pas lieu à une restitution. Si l'établissement veut l'organiser, il le fait, hein, bien sûr.
Petit complément sur le stage industriel, il fait l'objet évidemment d'une épreuve certificative. Ça veut dire que l'on va reporter sur l'entreprise une partie de l'évaluation du nombre de compétences. Donc c'est pas la notion de stage n'est pas tout à fait juste. Le vocabulaire est imposé par la réglementation des BTS. On est plus dans une période de formation en entreprise que dans un stage. Donc, et c'est une vraie qualification de compétence.
Par contre, ça ne peut pas être comme en bac pro déclaré comme une période de formation en milieu professionnel avec l'évaluation qui se fait dans l'entreprise. C'est pas possible. La réglementation ne le permet pas. Nous, on aurait voulu le faire, mais la réglementation ne le permet pas. Donc, on est obligé de prévoir une épreuve d'évaluation certificative à la fin finale, quoi, à la fin du stage. Même si c'est quasiment un CCF dans l'esprit, quoi. Alors l'enseignement d'anglais, donc on est dans la continuité de ce qui se fait en STI, donc je ne vais pas m'y étendre beaucoup. Hein, on a eu des retours extrêmement positifs de ce qui se passe en STI 2D, donc on espère que ça continuera, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et on est bien pour l'enseignement d'anglais, j'insiste sur ces petites nuances, on est bien dans un enseignement professionnel en anglais. D'accord? C'est-à-dire que ce qui se fait, c'est de l'enseignement professionnel en anglais. Par contre, pour le co-enseignement en mathématiques qu'on propose, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est bien dans un enseignement de mathématiques, mais le professeur d'enseignement professionnel va pouvoir s'adjoindre au professeur de mathématiques pour justement illustrer, concrétiser, pour qu'ils trouvent ensemble des exemples qui permettent aux élèves de mieux comprendre les mathématiques. Hein, et de mieux les maîtriser. Donc, là, par contre, c'est une nouveauté. On va voir ce que ça donne. L'expérience, l'histoire dira si ça valait le coup de le faire ou pas.
Un terme qui est important, mais on y reviendra peut-être dessus, c'est écrit en rouge, hein, cette demi-heure, comme l'heure d'ailleurs d'anglais, ou cette demi-heure de mathématiques en co-intervention peut être annualisée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire une demi-heure par semaine. Ça n'aurait pas beaucoup de sens, évidemment.
L'accompagnement personnalisé, il est d'une heure et demie donc par semaine. On était parti sur 2 heures et on n'a pas pu, faute de moyens. Donc on a réduit cet accompagnement à 1 heure et demie. Et ce qui est important pour nous, c'est que ils permettent, c'est indiqué dans le programme, hein, noir sur blanc, hein, qu'ils permettent d'accompagner les élèves, en particulier en mathématiques. On a eu beaucoup de remontées des industriels qui nous ont vraiment, enfin, qui ont attiré notre attention sur le déficit de la maîtrise des outils d'arithmétique de base de la part des élèves de BTS. Donc on le sait, hein, je veux dire, ils ne nous ont pas fait découvrir ça, on le savait. Mais disons que maintenant, voilà, c'est remonté à la surface, c'est arrivé jusqu'au CPC. Pour l'instant, la solution qu'on propose, c'est de conseiller vivement que dans l'accompagnement personnalisé, la partie mathématique, une partie d'aide aux mathématiques de base soit consacrée donc dans l'accompagnement personnalisé de première année et que donc pour les élèves qui ont envie de poursuivre leurs études en seconde année, eh bien qu'il y ait un approfondissement en mathématiques qui les aide à mieux poursuivre leurs études. Hein, donc grosso modo du soutien en première année et puis de la préparation à la poursuite d'études en seconde année. Donc vous avez ici des extraits du référentiel qui vous donnent les horaires, donc pas de surprise. Alors en fonction de certains BTS, eh bien il y a des écarts, hein, avec ce qui existait avant, forcément. Hein, les 5 BTS qui respectent maintenant cet horaire-là ont été écrits à des dates extrêmement différentes, avec des choses, des a priori extrêmement différents. Donc maintenant qu'on aligne ces 5 BTS sur le même horaire, il peut y avoir dans certains cas certains écarts. Mais grosso modo, ça devrait passer.
Alors, à partir de cette base-là, les BTS en rénovation, je pense à moteur combustion interne, aussi maintenance véhicule, vont suivre exactement le même horaire d'enseignement général avec les mêmes savoirs. Donc ça va permettre aussi d'autres rapprochements.
Oui, donc là, je vais passer assez vite. Hein. Vous aurez la possibilité de voir le programme de mathématiques. Donc, rien n'a changé. Hein. Ce sont les mêmes modules. On en a enlevé un tout petit peu, c'est tout. Hein. Donc, le programme de physique et chimie, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, à notre demande, c'est un programme assez généraliste et qui veut aborder un certain nombre de concepts qui sont nécessaires à la poursuite d'études, qui aideront les candidats, enfin les étudiants, pardon, à poursuivre leurs études et qui ne sont pas forcément vus dans un programme de physique et chimie à caractère professionnel. Voilà.
Alors, le programme de physique chimie est un programme de physique chimie. Il est commun normalement au BTS de la mécanique, de la troisième CPC. Il est évident qu'en fonderie, par exemple, on a besoin de connaissances supplémentaires. Alors à ce moment-là, on peut créer un complément de programme de physique chimie, mais il est pris normalement dans les 20 heures d'enseignement professionnel. C'est-à-dire qu'on veut vraiment avoir quelque chose de commun. Et ce qui est commun, c'est ça. Alors de mémoire, c'est comme ça.
Est-ce qu'il y a des questions pour ce premier exposé? Vas-y.
C'est un ense... C'est un enseignement de physique chimie fait par des enseignants de physique chimie.
Si vous ne faites pas ça, vous risquez des soucis quand même, hein, parce que nos collègues de physique et chimie, ils étaient très présents.
Ouais. Alors, la modularisation des enseignements. J'en vois plus trop l'utilité quand on a le même programme, quand des savoirs sont écrits de la même façon et qu'on peut partager certaines choses, quoi. Donc, l'utilité qu'elle a, ça serait dans la conception de la progression. Voilà. Donc, vous pouvez le faire. Ça, vous pouvez le faire. Alors, vous pouvez d'autant plus le faire. Et c'est pour ça qu'on a mis
Oui,
le stage
c'est pour ça.
de 6 à 10 semaines, qu'il faut faire plus 2 par rapport au STI 2D, hein, si on veut encore. C'est que vous puissiez faire une alternance en deuxième année. C'est-à-dire que vous pouvez positionner le stage, ça ne me dérange pas, 15 jours par mois, si vous voulez le faire comme ça, pour qu'on ait possibilité d'intégrer des apprentis ou de la formation continue. Tout est faisable. Vous avez bien vu qu'on a reporté des choix d'organisation sur l'établissement et on a essayé d'enlever toutes les contraintes administratives possibles. Maintenant, ça demande le montage d'un vrai projet pédagogique de l'établissement. D'autres questions? Non?
C'est bon.
Bon, ça va vous venir petit à petit. Donc je passe rapidement sur cette diapo qui était pour le séminaire précédent, surtout avec les industriels. Vous voyez qu'on a eu beaucoup d'industriels très présents dans les groupes de travail. J'insiste sur un point, c'est que tous les RAP ont été écrits sans la présence d'enseignants. C'est-à-dire que ce sont les industriels qui ont défini leurs besoins avec nous. On avait un chef de travaux qui était présent. Point, c'est tout. C'est normal, hein. C'est-à-dire que nous, on est là pour que le référentiel corresponde aux besoins et aux métiers qui est défini par les industriels. Les enseignants sont venus après pour écrire les compétences et les savoirs. Ça, c'est notre job et c'est votre savoir-faire à vous, quoi. Mais la définition même du RAP est d'origine industrielle.
Alors, je vais le dire tout de suite parce qu'après je risque de l'oublier. Mais donc, vous voyez, enfin, vous l'avez vu, on a travaillé avec pas mal d'entreprises, c'est très bien. Et on a aussi travaillé ensuite avec des groupes de profs extrêmement sérieux, extrêmement importants, hein. Quand on réunissait tout le monde, il y avait une quarantaine de personnes donc, pour travailler sur ces référentiels. Et je voulais simplement ne pas oublier de remercier tous les enseignants qui ont participé à ces travaux là d'écriture, de gestion, de cogitation, hein, parce que ça a été quelque chose de vraiment très très intéressant. Et on a quand même, je veux dire, on a quand même des profs de très très grande qualité dans notre système éducatif, et ça, il faut vraiment le reconnaître, c'est vraiment réjouissant.
Et merci aussi aux collègues hyper, ce qu'on n'a pas fait au début, qui ont accompagné les groupes, parce que vous comprenez bien que les groupes fonctionnaient en parallèle, qu'on n'a pas le don d'ubiquité. Donc ils nous ont suppléés, ils ont réussi grandement dans leur tâche. Merci à eux aussi. Alors, je vous passe rapidement, c'est la méthodologie qu'on a employée pour écrire le rap. C'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure qu'on avait classé des BTS en famille. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit des activités. Alors ça, c'est les us classiques. Hein, on a écrit des activités génériques pour chaque famille. Et en présentant ceci aux industriels, on leur a dit, voilà, si vous voulez ça, ça correspond à ça. Ça correspond à cette famille. Si on ne peut pas tout faire dans une famille. On ne peut pas faire à la fois de la conception de produits et à la fois de la conception de process de réalisation. Il faut vraiment se borner pour avoir un champ de compétences qui puisse s'enseigner, qu'on puisse enseigner dans le temps qui est imparti, quoi. Ça a très très bien marché, ils ont très très bien compris. Je vous montre, hein, ces activités génériques. Là, vous avez pour la conception de produits, en gros, on a quatre grandes activités. On participe toujours à une réponse à une affaire, ça commence toujours comme ça, quels que soient les BTS. On conçoit les systèmes du domaine considéré. Alors ça, là, pour le CPI, si c'est du CRSA, c'est du CRSA, si c'est du CRCI, on l'adapte en fait, évidemment, à la nature du métier qui est visé. On pré-industrialise le produit et après on gère la vie du système. On met un niveau de responsabilité d'autonomie à chacune de ces activités et ce qui nous permet d'affiner après les tâches qu'il y a derrière chacune des grandes activités, chacune des tâches pouvant bouger par rapport à ce niveau moyen d'autonomie, de responsabilité. Si on fait la même chose pour la conception de process, vous voyez, la première activité est la même, même si les savoirs qu'il y a derrière, les compétences ne sont pas les mêmes, hein. Après, on conçoit la production, on optimise cette fois-ci le triptyque coût, délai, qualité, et on gère la réalisation du produit. Voilà, ça, c'est les quatre grandes activités clé des BTS de process. Si on regarde la traduction en CPI et en CPRP, participer à la vente d'une affaire, c'est pour le BTS CPI, analyser l'expression d'un besoin en rédigeant un cahier des charges fonctionnelles, etc. Je vous laisse découvrir le tableau, je ne vais pas le balayer complètement. Donc on traduit en fait ce vocabulaire générique en vocabulaire adapté, on va dire, au métier et au champ professionnel qui est visé. Enfin, ça nous a permis d'écrire les RAP assez rapidement. C'est-à-dire qu'en deux réunions, on avait écrit les RAP. Parce que quand on borne les discussions, forcément, ça va plus vite. Alors là.
Je vais appuyer sur le Alors, quand on essaye de positionner maintenant sur un même espace l'ensemble de ces activités professionnelles pour voir leur cohérence et leur complémentarité, eh bien, on peut partir donc de la conception. Si on suit la chaîne de conception et de réalisation d'un produit, donc au centre, on a le besoin et le cahier des charges. Ensuite, on a la conception préliminaire, la conception détaillée. Le fait de pouvoir répondre à une affaire quand on passe au niveau de la réalisation, concevoir la production et les moyens de production, initialiser, industrialiser la production et gérer et piloter la production. Donc, on a une espèce de cible à 7 niveaux et on se rend compte que le BTS CPI va être centré sur les trois premiers niveaux, alors que le BTS CPRP, lui, va s'occuper des quatre niveaux suivants tout à fait globalement. Donc, oui, il n'y a pas de temporalité. Hein. Ouais. Donc, si on regarde maintenant la manière dont sont déclinées les tâches, hein, pour le BTS CPI, donc je vais vous le passer assez vite, hein, vous le lirez quand vous aurez envie de rentrer à fond dans ces tâches. Hein, donc, on a tout ce qui est analyse du cahier des charges, élaborer le cahier des charges, etc. Ensuite, on a tout ce qui est conception préliminaire avec 7 tâches. Donc, c'est quelque chose qui est dans la continuité directe de ce qu'on faisait déjà. Pas de changement. Ensuite, on a donc la conception détaillée avec 9 tâches. Là encore, hein, on retrouve quelque chose qu'on faisait déjà. Et puis, on a donc l'avis du bureau d'études avec trois tâches, hein, qui est quelque chose d'un peu particulier. Donc, ça, c'est pour la partie, je ne sais pas comment on fait pour revenir. Ah, c'est bon.
Donc pour le BTS CPRP, vous avez aussi les quatre tâches. Si on regarde, et vous allez retrouver des activités qui sont communes, puisqu'on a du travail collaboratif à faire, bon, c'est la même activité, même si chacun apporte évidemment ses compétences et ses savoirs, hein. Tout ce qui est lié à cette tâche 2, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est la conception du processus. On va évidemment après le tester, ce processus. Et là, et la partie donc gestion de la réalisation. Donc vous allez retrouver les éléments sur la qualité, sur la gestion de production, évidemment, même si on va pas. Je pense qu'on va un peu moins loin qu'avant en termes de gestion de production. Et surtout, on est là que pour garantir la mise en œuvre. Je crois que le terme garantir, il faut lui donner toute son importance. On ne forme pas à des spécialistes de la mise en œuvre de machines 5 axes ou autres. Ils doivent savoir faire les processus de ces machines-là. Et pour savoir les faire, ils ont besoin de les mettre en œuvre pour comprendre. Mais on n'attend pas un ouvrier hautement qualifié sur la mise en œuvre de ces machines. C'est ce que disait Dominique tout à l'heure. Donc ça, c'est bac pro. La mise en œuvre relève du bac pro. Par contre, on voit aussi qu'au travers de ces RAP, que finalement les CPC, c'est peut-être une caractéristique française. On ne travaille pas sur les métiers, on travaille sur l'emploi, ce qui est complètement différent. Parce que vous voyez bien que derrière le BTS CPRP, vous avez au moins trois métiers. Vous avez celui du chargé d'affaires, vous avez celui du responsable du bureau des méthodes, et vous avez quelque part là le chef d'atelier. Donc c'est bien trois métiers qui sont différents, donc on travaille plus sur l'emploi. C'est vraiment une caractéristique particulière.
Vas-y. Alors, donc, si on continue de travailler sur cette cible et qu'on regarde maintenant tous les aspects collaboratifs, c'est-à-dire, eh bien, on se rend compte que à partir de la conception du produit, faite, enfin garantie et effectuée par le BTS CPI, eh bien, on a tous les BTS de la conception des process et de la réalisation qui tournent autour. Donc, on les a mis là tous, et il y en a un qui est particulier, c'est la conception des pièces de matière plastique. Et donc, on voit bien que on a 1, 2, 3, 4, 5 BTS du métier du domaine de la métallurgie et un BTS du domaine de la plasturgie, parce que bah, maintenant, tous les mécanismes modernes intègrent très souvent des pièces en matière plastique dans la conception des produits. Donc, cet espace de collaboration, eh bien, il est extrêmement important et on va pouvoir imaginer des collaborations plus ou moins larges. Alors bon, là, on vous a représenté deux ou trois seulement, mais tout est possible, hein. Vous voyez, par exemple ici, une collaboration entre donc fabrication série et conception de produits. La suivante, ça va être une collaboration entre fabrication unitaire et un BTS métier. On a pris celui de la fonderie, mais ça pourrait être la plasturgie, ça pourrait être la forge ou la découpe en boutissage. Et on peut même imaginer, c'est l'exemple qu'on vous montrera cet après-midi pour un exemple de sujet zéro, une collaboration plus qu'à deux BTS. Hein. On peut imaginer une collaboration entre un CPI, un plasturgiste et une fabrication unitaire. Donc, ces activités et ces tâches professionnelles, là qu'on vient de voir, elles sont déclinées ensuite en compétences. Ça, c'est un processus de transformation bien connu pour nous. Hein, on part des tâches, on part des activités, on arrive à définir les tâches et ensuite on définit des compétences. Alors, ces compétences, il y a quatre compétences qui sont transversales à tous ces BTS que vous avez là. Donc, ce sont quatre compétences vraiment qui s'appuie essentiellement sur le domaine de la communication, savoir s'exprimer en français, en anglais, savoir s'impliquer dans un groupe, savoir gérer, trouver et gérer une information. et puis savoir assurer une veille technologique et capitaliser l'expérience. Donc là, on est vraiment dans du transversal, transversal. Et puis ensuite, vous avez un certain nombre de compétences métiers. Là, vous avez en rouge les 10 compétences métiers du BTS CPI. Et puis, vous avez en vert les 14 compétences métiers, dont 12 communes, donc au BTS CPRP. Non, on ne les détaille pas. De toute façon, on n'a pas révolutionné les compétences. On retrouve les compétences anciennes. Hein. Alors là, je te laisse la main.
Alors, vous trouverez dans tous les référentiels donc ce tableau-là, qui en fait relie les activités et les tâches avec les compétences. Et on a réalisé un croisement de ces tâches, on va dire compétences, et on a mesuré à l'intersection le degré d'implication de la compétence dans la réalisation de la tâche. Alors, je pense, enfin pour moi, hein, je crois que dans la découverte, si vous voulez, du référentiel et dans son analyse, ce tableau-là est un tableau clé pour vous. Alors, on verra après à quoi ça nous sert un petit peu plus, mais l'intérêt, c'est de regarder si je faisais la somme en verticale, ici, de tous les poids. Alors, le poids, j'explique, on a donné 1, 2 ou 3. 1, c'est la compétence, il faut la mobiliser, mais faiblement. 3, il faut la mobiliser complètement. Voilà. Si je fais le total, je vais m'apercevoir ici, j'aurais pu le faire, hein, de l'importance peut-être d'une compétence par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'elle est souvent répétée, donc elle est clé. Et je peux faire le même travail, cette fois-ci, mais en horizontal, pour regarder à travers certaines tâches, est-ce qu'il y a beaucoup de compétences mobilisées. Je pense que ce travail-là, si vous le faites, sachant que vous avez un deuxième tableau qui est aussi important, c'est la liaison entre les compétences et les savoirs, c'est une bonne indication de progression pédagogique. Je suis capable de regarder la tâche qui me permet d'aller vers beaucoup de compétences, ou alors je suis capable de regarder à travers quelle tâche il faut que j'insiste sur telle compétence parce qu'elle est clé. On a voulu le laisser, parce que ça c'est de la conception de référentiel, mais je crois que c'est un code de lecture très profond du référentiel aussi. Donc c'est pour ça qu'il existe dedans et qu'on l'a laissé. Les chapitres de savoir, vous les avez là. Vous avez une indication sur, on va dire, l'importance de ce chapitre-là par rapport au BTS. Ça veut dire que lorsqu'un savoir est commun, il est écrit de la même façon d'un référentiel à l'autre. Presque. Ou, parce qu'on s'est aperçu qu'après. Ça demande un temps considérable de mise au point. Hein. Considérable. Donc il y a peut-être encore quelques petits défauts. Bon, on s'en excuse pas avance, mais normalement les chapitres sont écrits de la même façon. Par contre, on a expliqué à chaque fois peut-être un niveau taxonomique différent, parce qu'on va moins loin. Et donc on a mis une colonne limite de connaissances pour expliquer jusqu'où il faut aller dans ce BTS-là. Mais l'intérêt, c'est que si vous mélangez des BTS, vous savez au moins. Et ça nous a pris du temps parce qu'on s'est aperçu que derrière les mots, entre mécanicien, concepteur ou fabricant, on n'avait pas la même traduction. Donc ça c'est là où on a passé, je crois, en termes d'écriture du référentiel, le plus de temps. Dernier concept sur les principes de construction des épreuves. Alors ça, c'est un peu nouveau. On a essayé d'aller vers la notion de bloc de compétences. Et en allant vers cette notion-là, et pour répondre à la question de Tauchon, c'est pour essayer de favoriser la modularisation aussi. Donc l'inscription de la formation continue. Et répondre aussi à une demande des industriels qui nous disaient dans vos épreuves certificatives, on n'y comprend rien parce qu'on ne retrouve pas nos pieds. Donc ce qu'on a fait, c'est simple, c'est qu'on a regardé pour une activité donnée l'ensemble des tâches. Là où les compétences, ici, étaient on dit, ah, ben, un poids fort. Et on a redescendu dans un seul bloc toutes les compétences de ce poids fort. Donc on a créé un bloc de compétences, mais surtout on a créé un bloc de compétences en rapport avec l'activité. Et on a dit, ben maintenant, ce bloc de compétences, ce sera une unité certificative. Et donc, les contenus de cette unité certificative seront en liaison principalement avec l'activité 1 ici. Ben, c'est extrêmement simple sur le principe, un peu plus dur à mettre en œuvre quand on applique aussi la réglementation des BTS qui n'a pas changé. Donc, vous aurez un petit écart entre la théorie qui est ici et la pratique qui est la réalité du référentiel. Et cet écart est dû au respect de la réglementation en vigueur qui n'a pas changé. Mais c'est extrêmement important ça. Alors, d'où l'importance du tableau précédent. Je vous remets. Voilà comment on a conçu en fait les épreuves. Donc, on peut avoir évidemment deux épreuves en une seule activité, ou on peut avoir une seule épreuve pour deux activités. C'est le cas du BTS CPRP quand c'est conséquent, quand on a une activité de projet. On ne va pas couper. Nous, on peut ne pas couper. Alors, d'où l'importance cette fois-ci de ce tableau avec ses pondérations dans la relation tâche-compétence. Parce que quand on est en formation continue, on peut ne former, ou former progressivement, mais ne former qu'à une activité. Et donc essayer de faire passer par un pseudo-unité capitalisable. Mais quand on en a une, l'intérêt, c'est de regarder les compétences qui ont été validées dans cette unité, là où elles s'expriment dans les autres tâches, pour essayer de réduire le temps de formation des autres activités. Alors ça demande évidemment une analyse un peu fine par les équipes pédagogiques, mais le principe est en place et c'est faisable. Alors voilà pour répondre de manière un peu plus complète à l'aspect modularisation. Sachant que de toute façon, vous aurez dans les semaines qui viennent, il me semble, un travail qui va être un rapport de l'inspection générale qui est dans les tuyaux sur les blocs de compétences et normalement une étude faite par la DGESCO et des propositions qui vont sortir sur l'écriture des référentiels aussi par cette méthode des blocs de compétences. Voilà, on a essayé. J'espère qu'on sera pas trop éloigné de la solution finale, mais on a essayé de concevoir ça comme ça.
Comme le disait Michel, on a essayé de le concevoir comme ça dans le respect de la réglementation. Et cette réglementation, elle est finalement assez contraignante, hein, parce qu'on est coincé par six épreuves, un nombre d'épreuves maximum en CCF à ne pas pouvoir dépasser. Et donc, quand on essaye de faire ces blocs de compétences et de respecter cette réglementation, ce n'est pas toujours simple. Alors, là, c'était une volonté, on en a parlé depuis le début. On va faire un petit zoom sur le projet collaboratif. Et ce projet collaboratif, eh bien, c'est un projet d'optimisation de produit, d'une pièce ou d'un mécanisme, au sens large du terme. Et il doit permettre une collaboration entre au minimum deux BTS métiers, hein, et il doit permettre de vivre une situation réelle, une situation de collaboration active. Permettre de confronter différents points de vue et de trouver un compromis. Et puis, on doit pouvoir conclure en justifiant les choix proposés. Donc, là, on est vraiment au cœur du métier. On est au cœur de ce que fait tous les jours un technicien, c'est-à-dire est obligé de choisir finalement un compromis et de pouvoir justifier ce compromis, sachant qu'un compromis n'est pas toujours la solution optimum vu des points de vue des différentes parties. Donc, pour pouvoir faire cela, on a prévu, tu peux y aller, donc un projet, hein, on a prévu un projet donc industriel collaboratif qui est peu ambitieux, parce que c'est quand même une grande évolution, c'est une grande nouveauté dans nos BTS. Donc, c'est un projet qui doit durer une vingtaine d'heures au maximum et qui va être évalué par un CCF, donc qui va être évalué en interne, à partir d'une épreuve orale, avec une partie de présentation collective et une partie de soutenance individuelle. Ça, ce sont des choses qu'on a l'habitude de faire maintenant. Et donc, l'objectif, c'est de permettre à un groupe de BTS de travailler avec un autre groupe de BTS. sachant que, alors, oui, sachant que, par exemple, eh bien, là, j'ai pris un exemple très théorique, mais pourquoi pas, soyons ambitieux. Hein, on peut, par exemple, partir d'une pièce à optimiser qui a été réalisée en mécano-soudure et se poser la question, bah, cette pièce, si je veux la fabriquer en fonderie, eh bien, comment faire travailler des BTS CPI et des BTS fonderie pour qu'on passe de cette pièce mécano-soudée à la pièce optimisée qui aura été définie avec les règles de la fonderie et voire même qui aura été optimisée, hein, avec des simulations mécaniques. Voilà, donc autre donnée, la prise en compte du prototypage rapide et de la fabrication additive. Alors pour les BTS CPI, tout à l'heure on a dit qu'une de nos, un de nos objectifs c'était de dépasser la maquette numérique purement virtuelle et d'arriver au prototypage. Donc le moyen le plus simple pour permettre à des BTS CPI de matérialiser quelque chose, c'est de leur proposer certainement de la fabrication additive. Donc ça va permettre de valider, comme on le fait déjà en STI 2D, hein, soit des formes, soit des comportements à partir de pièces en vraie matière ou en vrai, enfin, ou pas en vraie matière, mais en vraie résistance. Donc ça, on verra aussi que ça entraîne, hein, ça va entraîner certainement des évolutions des machines dont on devra disposer. Le BTS CPRP, donc l'intégration des procédés de fabrication additive, tout à l'heure il y aura un exposé, donc je ne vais pas m'étendre, idem pour le BTS fonderie. Hein, aujourd'hui, il y a des grandes évolutions par rapport à la fabrication des moules qui permettent d'imaginer des tas de prototypages en fonderie.
Alors, je vais insister sur un point particulier sur le BTS CPRP pour que vous compreniez bien le changement, on va dire, de fond d'enseignement. On vise la conception de processus. Ça veut dire que on va étendre, et c'est le pari qu'on a fait, on va étendre à d'autres technologies que l'usinage. C'est clé. On aurait pu prendre l'option de dire je crée un BTS nouveau complètement sur les procédés additifs. Je crois qu'on n'avait aucun intérêt à faire ça pour l'avenir de l'usinage, parce qu'on sait pas comment ça va se positionner, et dans la logique globale, on a quand même, y compris évidemment c'est pas la coupe, mais on a des logiques communes, notamment dans le concept de process, et on a surtout des complémentarités qu'il faut aussi exploiter. Mais pour bien aller dans la conception des processus, ce qui est important, ce qui va être important, c'est de diversifier les moyens de réalisation en termes de procédés. Donc il ne faut pas se contenter de l'usinage par enlèvement de matière classique, mais il faut aller explorer d'autres procédés. Alors d'autres procédés, je pense notamment à tout ce qui est découpe jet d'eau 5 axes, qui permet d'aller vers d'autres matières, d'avoir les mêmes problématiques. Puisqu'on est en 5 axes de gestion des paramètres et des déplacements qu'un usinage 5 axes classique. Donc c'est vers ça qu'il faut aller. Donc la diversification des procédés, c'est extrêmement important, quoi. Beaucoup plus important que d'aller vers la connaissance extrêmement fine de l'un d'entre eux, quoi.
Alors, cet aspect-là des choses a des conséquences, comme le disait tout à l'heure Michel, sur les équipements. On peut imaginer, alors, ce qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui, c'est de continuer de faire ce qu'on a fait ces 50 dernières années, c'est-à-dire dire, il faut, il y a un nouveau procédé, il y a un nouveau type de machine, donc il faut que chaque section de BTS dans une académie dispose de cette nouvelle machine, et ce qui fait que ça entraîne des coûts pour les collectivités territoriales qui sont absolument faramineux. C'est ce qui s'est passé avec la dernière évolution avec les machines UGV, par exemple. Non, c'est plus tenable de continuer dans cette logique-là. Et donc, il faut maintenant faire la part entre, par exemple, pour le prototypage, ce qui pourra être effectivement réparti, enfin, ce qui pourra exister dans chaque établissement. Bon, par exemple, au niveau des imprimantes 3D, aujourd'hui, quasiment tous les établissements ont une petite machine d'impression 3D qui fonctionne bien, mais qui ne permet pas, par exemple, de faire des choses complexes comme un frittage métallique, ou qui ne permettent pas de faire des matières résistantes. Et ben, il faudra se poser la question avec les collectivités. de comment est-ce qu'on peut répartir, dans le cadre d'un travail collaboratif, eh bien, des machines beaucoup plus coûteuses et qui peuvent être commandées ou avec lesquelles on peut travailler à distance. Hein, donc là, on a deux logiques. Hein, on peut avoir une logique de pôle, hein, c'est-à-dire qu'une académie, plus exactement maintenant une région, peut se dire, ben moi je vais créer un pôle de compétences de prototypage, et à ce moment-là, les établissements s'adresseront à ce pôle le jour où un établissement voudra faire prototyper une pièce. Ça existe déjà, hein, l'Académie de Lille est partie dans ce sens-là, l'Académie Clermont aussi, donc c'est possible. Et l'autre solution, c'est un établissement, enfin c'est un fonctionnement en réseau, hein, c'est-à-dire que s'il faut trois machines et qu'il y a trois établissements, eh bien chaque établissement a une machine, et puis ensuite on échange. Enfin, on échange les fichiers et donc on s'envoie ensuite le résultat des pièces obtenues. Donc ça, c'est une évolution très forte dont il va falloir parler avec les DAFPIC, avec les DAET et avec les collectivités territoriales.
Voilà, j'espère que vous comprenez mieux l'importance de disposer d'outils de gestion collaborative. Si on en reste aux outils actuellement présents de type PDM, toute la collaboration, vous pouvez la faire, mais intra-établissement. Et si vous voulez passer vers une collaborative, une gestion de plateforme, etc., donc inter-établissement, là, on est obligé de passer vers des solutions de PLM. Il n'y a pas de raison que. Pour moi, on en est au même point de révolution au niveau de ces outils-là que qu'on est passé de la DAO à la CAO. Hein. C'est du même ordre.
Passer du traditionnel au numérique.
C'est du même ordre. Mais on est dans la continuité de l'évolution des outils numériques. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Attends, il y a peut-être un micro.
Ouais. Il n'est pas allumé. Il faut appuyer là.
Oui, pour poursuivre la réflexion, parce qu'on n'a pas abordé le problème, dans la maîtrise des procédés, on a certains bacs pro qui existent. Qu'en est-il des procédés dont on a parlé? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une évolution sur ces bacs pro ou on aura une approche multiprocédée?
Ah non.
Une évolution sur les bacs pro, c'est la création de bacs pro par exemple de découpe en boutissage, c'est ça que tu veux dire, par
Oui, parce
exemple.
qu'il va bien falloir avoir des opérateurs pour maîtriser ces procédés. Qu'en est-il des demandes de l'industrie par rapport
Alors,
aux procédés?
c'est le travail qui arrive de la troisième CPC, c'est la rénovation des bacs pro. Alors, qu'est-ce qu'elle va être? Alors ça, là, franchement, tout de suite, j'en sais rien du tout. Mais c'est vrai qu'il va falloir que. Si on prend cette logique-là, il y a certainement des regroupements à faire entre Bac Pro TUTO, certainement, on le voit bien. Est-ce qu'il faut intégrer les procédés additifs au niveau du Bac Pro dans ces BTS? C'est vrai que la manipulation, on va dire, ou le savoir-faire manipulatoire d'un procédé additif n'est pas du tout le même et est très simple hein, par rapport à la mise en œuvre d'une machine à commande numérique. Il n'y a pas de bac pro forge. Il y a un bac pro qui est pilotage. Comment il s'appelle maintenant, Jean-Pierre? Pilotage des procédés. On peut créer autant d'options qu'on veut, hein, si on veut vraiment personnaliser, mais au moins on a la base qui est commune. Peut-être est-ce une solution?
Participer à la réunion une des premières réunions de travail avec toi pour voir si plutôt que créer un bac pro spécifique autour des traitements de surface, ça peut pas être ces pilotes de ligne de production, pardon, c'est le BTS qui s'appelle. On ne peut pas s'appuyer sur le pilote de production parce qu'on a fait ce bac pro là pour le colorer justement. Il n'y a aucun procédé dans le désigné, c'est-à-dire qu'il y a tous les procédés parce qu'on s'est rendu compte que la conduite pouvait s'écrire de façon générique. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de filières, si nous en sommes d'accord, qui pourraient se rapatrier sur le pilote de ligne de production, qu'on pourrait effectivement adapter aux différents différents précédents questions.
Ouais. C'est vrai qu'on serait moins dans la même logique, c'est-à-dire qu'on a au moins des savoirs communs, etc. Puisque là, il est unique, c'est qu'on fait, on ne décrit que la partie métier de l'option. Donc pourquoi pas? Je précise quand même que dans les référentiels, notamment celui du CPRP, il n'y a aucune mention des procédés. Ça veut dire que si je suis à Cluses, je vais faire évidemment beaucoup de décolletage, donc machine multi-axe. Si je suis dans l'ouest de la France ou dans le nord, je vais peut-être faire beaucoup du GV. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc le procédé en lui-même est adapté au contexte local.
C'est à Jean-Pierre maintenant.
Ben non, mais c'était pas fait pour ça. Alors là, la fin de clair, hein. C'était pas fait pour trouver une solution au problème d'embauche, quoi. C'est vrai qu'en fait, ce qui manque, c'est les bacs pro. Hein. Là, c'est ça le problème. Hein.
C'est ça.
Et c'est vrai que les meilleurs d'entre eux poursuivent en BTS. Mais s'ils poursuivent, alors là, vous pouvez les interroger. Hein. Nous, on fait des enquêtes. Tous poursuivent pour changer de métier. Ça, c'est clair dans leur tête. Ils ont bien compris que bac pro opérateur, BTS, je suis dans la conception, je suis en bureau. Alors, même si, et je crois qu'il est bien de commencer par des situations d'emploi métier très proches de la production, donc à l'atelier, pilotage de machines, c'est vrai, ça doit pas durer, quoi. Je dirais que ça peut durer que quelques années. Ils ne sont pas formés pour ça. Et là, on va les payer cher pour.
Et de toute façon, on voit bien que c'est reculer pour mieux sauter, parce que de toute façon, à terme, au bout de 10 ans, les BTS qui sont devant des machines ne veulent plus non plus rester devant des machines. Donc il faut vraiment réussir, je ne sais pas comment, parce que c'est compliqué, mais il faudrait vraiment réussir à avoir plus de bac pro pour que des bac pro fassent effectivement le travail d'opérateur qui correspond à ce qu'on attend d'eux dans l'entreprise, quoi. Oui. Non, non, mais c'est
Ouais.
partout.
Ouais. Ouais. Enfin, bon, c'est quand même les entreprises qui ont défini le rap. Hein. Enfin, c'est eux. Hein. Donc, et je vous assure, dedans, on a fait très attention à ce que ce ne soit pas un représentant de la branche qui soit là, mais on a vraiment convié à la fois des PME et des grands groupes. Hein. Donc on a fait très très attention à ça, quoi. Mais je suis d'accord, c'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème. Ceci étant, la filière, on va dire usinage, reprend du poil de la
Reprendre
bête.
la bête, oui.
Les bacs pro commencent à se remplir mieux et surtout avec des gamins qui viennent pour faire ça. Ce qui est important parce qu'avant il y en avait, mais comme ils venaient pas pour faire ça, ils n'y restaient pas. Donc, d'autres questions? Alors, on vous fait une dernière présentation. Sur les économies générales, hein, et sur cette approche-là, dernière présentation, c'est sur les évaluations que vous allez conduire sur les épreuves. Donc, je ne rentre pas sur l'évaluation en elle-même, mais sur le principe, hein, évidemment. Comme ça, on aura fini l'économie générale. Alors, on va enseigner et on va évaluer des compétences. Donc, je vous ai mis un tableau, j'ai extrait une compétence. On a des compétences détaillées qui viennent derrière, critères d'évaluation, et après on a des indicateurs d'évaluation. Donc on généralise depuis un petit moment dans les BTS, mais là comme on les rénove, c'est facile. Et donc je sais plus comment ça s'appelle, dans ce que vous recevrez pour mettre en œuvre de la part de l'Académie, la
Circulaire
circulaire
nationale.
nationale, vous aurez dedans les fiches d'évaluation. Les fiches d'évaluation, voilà. Vous avez celle de l'unité, je ne sais plus laquelle c'est, soutenance du projet. Si vous enseignez un STI2D, ça ne va pas vous changer beaucoup.
Apparemment, il n'y en a pas
Je
beaucoup.
vous explique comment ça marche. Vous avez la compétence du référentiel, la liste des compétences détaillées qui lui sont attachées et l'ensemble ici des critères et indicateurs de performance. Vous avez ici, on va y revenir, une partie sur les performances mesurées, c'est comment on fait pour mesurer ces performances. Et ici, vous avez un calcul intermédiaire qui se fait automatiquement puisque on affecte un poids à chacun des indicateurs et un poids à chacune des compétences. Donc je vous dis tout de suite, vous n'aurez pas le droit de modifier ces poids. Pourquoi ? On va en discuter, alors elles sont provisoires, donc on va discuter de ces coefficients, de cette pondération, mais c'est une grille d'évaluation nationale. Donc il est hors de question de modifier l'évaluation dans tous les points du territoire. Donc ça sera bloqué. Et vous avez ici des vérifications qui permettent de voir si on a évalué suffisamment d'indicateurs. C'est-à-dire que si l'évaluation elle est solide en termes d'évaluation. Le principe, il est simple. Vous avez une colonne non évaluée. C'est-à-dire qu'en fonction de l'épreuve, en fonction du projet, évidemment, ce n'est pas une évaluation de toutes les compétences et de tous les indicateurs. Ce n'est pas possible. Je rappelle, on a des principes d'évaluation en France. On fait une évaluation certificative, elle est statistique par prélèvement. Donc si j'évalue tout, je ne suis plus par prélèvement. Donc il faut respecter ce principe de l'évaluation qui est dans les textes. Et après, vous avez quatre possibilités d'évaluation. Ou la question que vous avez posée qui permet de mesurer l'indicateur, la réponse elle est complètement fausse, ça vaut zéro. Il y a un petit peu quelque chose quand même dedans, mais c'est pas quand même très très bon, ça vaut un tiers de la note. Il y a quelque chose dedans, c'est pas mal, mais c'est pas complet, ça vaut deux tiers de la note. Et la réponse vous convient, c'est conforme aux attentes que vous pouviez avoir, ça vaut la totalité des points. Pas 18, pas 19, la totalité des points à l'indicateur. Alors, la solution de calcul que l'on a retenue, on a voulu la plus simple possible. Donc en fait, on fait une simple moyenne pondérée des résultats. Ça a un avantage, c'est que ce que vous enlevez n'est plus pris en compte. Donc vous faites une notation par rapport aux indicateurs qui restent, donc par rapport au travail qui est demandé. Et on ne prend plus en compte ce qui n'est pas demandé. C'est le plus simple, c'est les calculs qui sont les plus simples. C'est comme ça qu'on a modifié depuis le début et depuis l'an dernier les évaluations au bac STI 2D. Franchement, ça donne quelque chose de très clair, quoi. Ce qui est important, c'est que vous ayez la main sur ce que vous conservez. En faisant comme ça, donc voilà le mode de calcul, hein, c'est tout bête. Vous pouvez complètement enlever une compétence intermédiaire. C'est complètement possible. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est de descendre à un niveau en dessous de 50% du nombre d'indicateurs du poids, hein, en poids. 50% du nombre d'indicateurs de la compétence globale. Mais par contre, à l'intérieur, s'il y a une compétence intermédiaire qui n'est pas faite, vous pouvez. Donc ça donne une souplesse totale sur l'organisation des projets. Et sur ce que vous mettez dans le projet.
Mais ça vous interdit de faire un projet à une compétence et un critère d'évaluation. On est bien d'accord.
Ça, c'est pas possible puisqu'il faut que toutes les compétences globales soient évaluées. Donc, cette flexibilité, il faut qu'on vous la donne. C'est pas la peine d'imaginer des carcans d'évaluation qui obligent, etc. On sait très bien que ça mène à rien. Donc, la flexibilité, vous l'avez. Donc, vous avez la main. Évidemment, ce sont ces grilles qui vous permettront de décrire les attentes du projet. Puisque ce sont bien les tâches qui sont liées aux indicateurs qui vont permettre de mesurer la compétence. Donc on verra tout de suite ce que votre étudiant a à faire dans le groupe projet ou a à faire dans son CCF d'évaluation. Voilà le principe qui est retenu. Toutes les grilles sont faites pour les BTS. Elles sont prêtes. il faut qu'on en discute maintenant.
Oui. Donc D'accord? on va vous les donner, là, elles vont être accessibles, mais elles ne sont pas définitives.
Voilà.
Hein, donc vous pouvez vous en servir pour jouer avec, hein, pour voir comment ça marche. Ça n'y a pas de problème. Mais les grilles définitives sont celles qui seront donc attachées à la circulaire nationale qui organise chacun des BTS.
Donc le calcul automatique, évidemment, c'est un résultat. C'est à vous de l'appréhender, ce résultat. Et donc vous pouvez modifier la note finale. Il faudra simplement que l'on indique pour tout le monde, parce qu'il faut indiquer, c'est quelle marge de manœuvre on se donne. Alors il y en a une qu'on va vous imposer, c'est qu'on vous impose de ne pas descendre la note. Ça ne se fait pas. S'il a eu ça, il a eu ça. Donc je sais comment vous ferez pour la diminuer sans la modifier là, donc vous y arriverez. Il suffira de mettre la croix au bon endroit. Mais sur le principe, on ne le fait pas, parce que ça veut dire que le gamin, ben, il a prouvé qu'il était arrivé à ça, donc on met ça. Par contre, on peut trouver un résultat et se dire, bon, ben, celui-là, franchement, on le suit quand même depuis un moment, il mérite mieux. Et bien s'il mérite mieux, il faut lui mettre mieux. Voilà. Et celui qui a terminé, qui a travaillé qu'à la fin, ben, ça veut dire qu'il a bien travaillé à la fin, s'il est arrivé. Voilà les principes, tous les principes. Toute l'économie générale du projet, vous les avez maintenant, on va rentrer. C'est Jean-Pierre. Dans le détail, un peu plus.
Ces grilles sont de superbes outils d'évaluation des... compétences.
Arrête-toi là alors Jean-Marc, arrête-toi là.
Non,
merci.
Si on les utilise en STI2D, si on les utilise en STI6, bon. Maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser ces grilles à l'automne qui suit l'examen pour que les enseignants se les approprient pour avoir un outil réflexif sur l'enseignement qu'ils dispensent? Parce que c'est à ça que ça peut servir aussi. Les compétences qui n'ont pas été traitées, celles qui n'ont été mal évaluées, celles qui ont été bien évaluées aussi, de façon à améliorer son enseignement grâce à cet outil.
Oui, bien sûr, c'est un des objectifs, c'est-à-dire que la grille, elle peut servir à l'évaluation terminale, mais elle sert évidemment à une évaluation progressive, hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien remettre cette grille à l'étudiant dès le début de sa formation.
Il regarde le grand.
À l'étudiant, ouais,
mais même
d'avoir
pour la maison, c'est dur.
Une bonne connaissance des différentes compétences, des différents critères, et de se positionner sur chacun de ces critères. Et ça lui permet d'avoir quasiment un livret de compétences, et ça lui permet de suivre ses progrès et au professeur d'avoir une vision globale dans la durée, dans le suivi, dans la progressivité des apprentissages.
Est-ce que tu parles
Bien sûr.
Non, tu fais juste historique.
C'est pour ça que cette grille, il faut que vous vous en empariez. Tout à l'heure, je disais, il faut jouer avec. Oui, mais c'est un jeu sérieux. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour vous, pour pouvoir construire. D'abord, ça va vous permettre aussi d'utiliser cette grille. Michel n'en a pas parlé, mais il devrait. Ça va vous permettre d'utiliser cette grille dans le cadre de toutes les présentations quand vous allez présenter un projet. Il y aura toujours ces phases de présentation du projet avec la validation du projet. Eh bien, il faut que vous puissiez prouver que le projet que vous proposez est bien susceptible de pouvoir évaluer 50% des items. Donc, les grilles vont pouvoir aussi être utilisées dans le cadre de la validation des projets. Et on a l'équivalent de cette grille pour le sujet d'écrit. Hein, tout à l'heure, on verra, il y a deux sujets d'écrit. Enfin, il y a un sujet d'écrit pour chaque BTS. Et donc, à partir de maintenant, on est capable de préparer le sujet d'écrit avec une grille d'évaluation et de donner au correcteur une grille d'évaluation, comme on le fait en STI 2D, de façon à pouvoir corriger les sujets d'écrit.